ce que je vous envoyais, que ce que Dieu avait mis sur mon cœur, c'est de partager sur cette notion d'être sur le roc. Et juste, je vais en introduction vous raconter une petite histoire que j'ai entendue il y a déjà, ou que j'ai lue, je ne me souviens plus très bien, parce que ça remonte déjà un certain temps. En tout cas, c'est l'histoire qui nous a été racontée et de quelqu'un, une personne qui, je pense, c'était quelqu'un de noble, un noble, ça remonte à quelques décennies, hein, et il avait demandé à des peintres de peindre un tableau qui représentait la paix. Et donc, il y avait plusieurs peintres et tous les peintres, sauf un, ont représenté un tableau ont représenté plutôt des tableaux qui étaient des paysages magnifiques, hein, des paysages de nature merveilleux. Et puis on sait que la nature, c'est quelque chose de merveilleux. Normal, ça a été créé par le Seigneur. Et donc, c'est vrai, dans une certaine mesure, bien sûr, ça a donné une notion de paix. Hein, quand vous vous retrouvez dans la nature, et puis vous voyez ces choses magnifiques, ça vous donne ça vous donne la paix, oui, c'est vrai. Mais un seul peintre a produit un tableau, mais alors totalement différent. Il a représenté une mer déchaînée. Alors, on peut se dire, ouais, une mer déchaînée pour peindre une notion de paix. Mais voilà, quand on regardait bien le tableau, on voyait donc cette mer déchaînée, enfin les vagues. Et puis, il y avait au milieu de ce tableau un rocher. Et puis, donc, on voyait, enfin, ça montrait, ce peintre avait montré à quel point les vagues venaient frapper sur le rocher. Enfin, c'était la tempête, quoi, terrible. Mais en haut de ce rocher, il y avait un nid. Et dans ce nid, il y avait un oiseau. Et en fait, ce qu'il avait voulu représenter, ce peintre, c'était que, et d'ailleurs c'est ce tableau-là qu'avait choisi cet homme qui avait commandé ses œuvres pour représenter la paix, parce que en fait cet oiseau qui était dans son nid, eh bien il était totalement en sécurité là-haut, sur son rocher, malgré la tempête qui était en train de se déverser tout autour, sur le roc. Et voilà, quand je réfléchissais à cette notion d'être sur le roc, eh bien cette pensée m'est revenue, enfin cette histoire m'est revenue. Nous sommes des enfants de Dieu et je pense que chacun d'entre nous, eh bien, Dieu est quand même notre rocher, en tout cas on l'a lu. Et on le sait dans notre intelligence, j'espère qu'on le sait aussi d'ailleurs dans notre cœur, mais on est les uns et les autres quelquefois dans des sacrées tempêtes. Et si on regarde notre monde aujourd'hui, c'est pas si aujourd'hui on est en visioconférence, on sait tous pourquoi. C'est quand même terrible ce qui arrive. On est comme dans une espèce de tempête mondiale. Comment est-ce qu'on peut être en sécurité? Et comment est-ce que, enfin, on peut vraiment être sur le roc? Alors, je vais plusieurs choses. D'abord, quand même, hein, le psaume 18, par exemple, au verset 32, va dire « Qui donc est Dieu ?» C'est le Seigneur. « Qui est notre solide rocher ?» Donc ça, c'est la question qui s'adresse à chacun de nous. Qui est notre solide rocher, si ce n'est notre Dieu? Alors c'est bien de l'intégrer, c'est bien de le savoir, mais c'est mieux de le vivre. Et au verset 33, d'ailleurs, il continue en disant « Ce Dieu, eh bien, il me remplit de force. » Et puis, il va dire, pour terminer ce verset, « Il me montre le chemin. » Et on y reviendra parce qu'il y a quand même quelque chose d'important dans ce verset 33 finalement. Dieu est notre solide rocher, Jésus est notre rocher et il est celui qui nous montre le chemin. Alors, c'est facile à dire que Jésus est notre rocher quand tout va bien, quand tout roule pour nous, hein, quand... quand c'est le soleil dans notre vie, quand chaque chose qu'on désire, eh bien, on l'obtient, quand tout semble aller dans le bon sens, on va dire. Alors, c'est chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous certainement, hein, c'est facile de dire, bah ouais, Jésus c'est le rocher. Mais quand c'est la tempête, quand ça ne va pas comme on le souhaiterait, ou quand on est attaqué, est-ce que Jésus est vraiment notre rocher? J'espère que oui. Mais ça, c'est aussi une réalité. Il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu qui nous en parlent. Et juste, je vais donc vous redonner un autre texte, le psaume 73. Donc, je vous invite à lire dans son intégralité d'ailleurs, mais bon, je vais juste lire quelques versets. On va lire dans un premier temps du verset 10 à 13 et ensuite du verset 20 à 26 dans la version Bible en français courant. Voilà ce qui est dit, parce que ce que dit ce psaume, c'est une réalité, on vit tous cette réalité-là quelque part. « Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il boit leurs paroles évidemment comme de l'eau et dit « Comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut ? Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. » Combien de fois, frères et sœurs, j'ai entendu que, j'ai même encore entendu hier, que pourquoi est-ce que tous ceux qui sont méchants, tous ceux qui ne s'occupent pas de Dieu, même qui rejettent Dieu, même qui maudissent Dieu, pourquoi est-ce que tout va bien pour eux? Et pourquoi moi qui prie, moi qui cherche la face de Dieu, eh bien, j'ai l'impression que tout va mal. C'est un peu ce que décrit ce psaume 73. C'est pour ça que je vous disais, je vous invite à le relire dans son intégralité, vous comprendriez bien. Et je vais donc vous lire au verset 20. Il nous dit ceci, « Seigneur, dès que tu rentres en action, ils ne se réduisent à rien, comme les images d'un rêve lorsqu'on se réveille. Et quand j'étais plein d'amertume, oui, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas pourquoi ceux qui ne s'occupent pas de Dieu, eh bien, tout leur réussit, et puis que moi, ben, je suis dans la détresse. Je ne comprenais pas, alors j'étais plein d'amertume. Quand j'étais choqué jusqu'au plus profond de moi-même, en fait, ben, j'étais stupide. Je n'y comprenais rien, c'est ce que dit le psalmiste. Comme une vraie bête devant toi. Pourtant, je suis malgré tout toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Oh, c'est intéressant ça. Et tu me conduis selon ton plan. Ça me semble intéressant aussi. Et tu me recevras avec les honneurs. Au ciel, qui me viendra en aide sinon toi? Et ici-bas, que désirer puisque je suis avec toi? Alors, mon corps peut s'épuiser. Mon corps, mon cœur aussi. Mais mon appui, mon bien le plus personnel, eh bien c'est toi, Dieu, et pour toujours. Voilà ce que a conclu le psalmiste. Non, si je ne me trompe pas d'ailleurs, je crois que c'est David qui a écrit ce psaume. Ce psalmiste qui s'interroge face à ce qu'il voit autour de lui, quand il voit que, encore une fois, je répète, hein, ceux qui ne s'intéressent pas à Dieu, ben, tout va bien pour eux. Et puis que finalement, ben, lui qui cherche la face de Dieu, bien, il est dans la détresse. Mais quand même en finalité. On voit son expérience, sa vie, eh bien, enfin, sa conclusion en tout cas, il dit finalement, ben, d'une part, j'étais stupide, j'y comprenais rien. Tu m'as saisi la main droite, Dieu est toujours là, il nous conduit, il nous prend par la main. Et puis, enfin, ouais, c'est fort quand même ce qui est dit ici, parce que ce psalmiste dit, ben voilà, mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi. Mais finalement, ton appui, est mon bien le plus précieux. Alors, moi, cet après-midi, je vous parle donc d'être sur le roc. Comment Dieu peut-il être mon rocher, d'une part? Comment Jésus? On peut certainement tous se poser la question. Hein, je pense que c'est juste. Parce que pourquoi est-ce que, par exemple, Dieu a permis que le coronavirus soit sur la terre? Pourquoi des chrétiens, des enfants de Dieu, on a encore entendu, meurent du coronavirus? Pourquoi? Alors peut-être qu'on n'a pas toutes les réponses. Hein. Mais en tout cas, la question qu'on peut se poser quand même, malgré nos pourquoi, parce que la parole de Dieu déclare, moi je le crois, moi je pense que vous aussi d'ailleurs, c'est que Jésus est, non seulement il est notre rocher, en tout cas moi j'aime dire Jésus est mon rocher. Comment est-ce que je peux aller sur ce rocher quand je suis dans la tourmente, quand toutes mes pensées sont en train de tourbillonner dans mon être intérieur, quand les seules choses que je vois en face de moi, eh bien, c'est les problèmes, c'est les difficultés, enfin, c'est la tempête, quoi. Comment est-ce que je puis atteindre ce rocher? Alors, laissez-moi vous partager un autre psaume encore. Moi, j'aime la parole, vous le savez bien. Ces textes, cette parole de Dieu, cette parole qui me nourrit, alors je vous en fais part, voilà. Alors, comment Dieu peut-il être mon rocher? Comment puis-je l'atteindre? Le psaume 60, au verset 14, à partir du verset 14, dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Au chef de cœur, sur l'instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris. Voilà, David était celui qui criait à l'Éternel. Parce qu'il était dans la difficulté. Parce qu'il était dans la tempête. Alors, on n'est pas les premiers à vivre cette dimension-là. Oui, David l'a vécu avant nous. Et beaucoup d'autres d'ailleurs. Et voilà ce que dit David encore une fois. Ô Dieu, je crie à toi. Enfin, écoute mes cris, quoi. Sois attentif à ma prière, j'en ai besoin. Des extrémités de la terre, dans ma faiblesse, je crie à toi. Voilà, je crie à toi. Et ce que je crie à toi, c'est ça. Je vais vous le dire tout de suite. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Conduis-moi sur le rocher. Le rocher que je ne peux pas atteindre avec ma propre sagesse, ma propre intelligence, ce rocher que je ne peux pas atteindre avec seulement mes raisonnements, parce que mon vécu, avec toutes mes difficultés, avec la tempête qui est devant moi, mais comment est-ce que je peux être en paix, en sécurité sur le rocher que tu es, alors que tout ce que je vois, c'est ça, quoi. David l'a vécu. Certainement, chacun d'entre nous, on a vécu des circonstances ou des temps dans notre vie où c'était un peu comme ça. Et David va dire à Dieu, voilà, moi je crie à toi, conduis-moi, ô Dieu, sur le rocher. Moi tout seul, je ne peux pas. Alors conduis-moi. Et il va dire au verset 4, tu es pour moi un refuge, tu es pour moi une tour fortifiée en face de l'ennemi. Mais je voudrais habiter éternellement dans ta tente et me réfugier sous l'abri de tes ailes. Au psaume 62, il va dire, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher. C'est lui mon salut. C'est lui ma forteresse. Mais quand Dieu est notre rocher, quand il est notre salut, quand il est notre forteresse, David, au verset 2 du psaume 62, au verset 3 plutôt, il va dire « Je ne serai guère ébranlé, parce que tu es mon rocher. » Frères et sœurs, Jésus est notre rocher aujourd'hui. Face à ce qui est en train de se passer, face au coronavirus, face à notre confinement, face à tout au-delà du confinement, au-delà du coronavirus, au-delà de tout ce qu'on peut vivre, eh bien, Jésus est notre rocher. Il est celui qui est notre rocher. Alors, c'est quoi? C'est quoi Jésus rocher? Je me suis interrogé. C'est pas que je comprenais pas ces choses. Oui, si, je les comprends, bien sûr, parce que en même temps, je peux quand même dire que je l'ai expérimenté à de nombreuses reprises, quand même, dans ma vie. Dans Matthieu chapitre 7, frères et sœurs, à partir du verset 24, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui nous est laissé là, un rapport, en rapport au fait que Dieu est notre rocher. Alors, je vais vous le lire de nouveau. C'est la parabole que Jésus va donner par rapport à la maison qui est construite sur le sable et celle qui est construite sur le roc. Alors, au verset 24, il est dit, « C'est pourquoi celui qui entend ce que je viens de vous dire et qui agit en conséquence ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur un soubassement rocheux. Qu'il pleuve à verse, que les fleuves débordent, que la tempête souffle avec violence et que tous ces éléments se déchaînent contre cette maison. Elle reste debout, inébranlable, car ses fondations reposent sur le roc. » Alors, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec ça. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, tant pis pour vous, mais c'est la parole de Dieu quand même. Hein, c'est Jésus qui est en train de le dire. Alors, allez le voir. Hein. Alors, je vais continuer quand même. Hein. « Par contre, celui qui aura écouté mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. S'il pleut à verse, si les fleuves débordent, si la tempête souffle avec violence, et si tous les éléments se déchaînent contre cette maison, voilà qu'elle s'effondre et il reste un grand tas de ruines. » Dans ce texte, il y a des éléments extrêmement intéressants. Tout d'abord, bien entendu, encore une fois, on comprend que l'enfant de Dieu est celui qui, en tout cas, doit bâtir sa maison sur le rocher. Et puis, on vient de voir précédemment, de toute façon, que le rocher, eh bien, c'est Jésus, le roc. Il faut que nos fondations soient sur le roc. Mais alors, du coup, je pense qu'il faut qu'on se pose la question, parce que même si… Alors, moi, j'ai tendance à être d'accord avec la Bible, hein. Je pense que vous aussi. Même des fois, sur certains passages, on peut avoir différentes compréhensions, mais sur les fondations, sur les choses essentielles de la vie, de ce que la Bible nous enseigne, je pense qu'on est tous d'accord. Mais en tout cas, je crois que vous êtes d'accord sur le fait que Jésus est le rocher, et puis sur le principe, ou je ne sais pas comment dire, en tout cas, le principe qu'on doit construire notre vie en tant qu'enfant de Dieu sur le rocher qui est Jésus plutôt que sur le sable. Hein. Mais alors, ça veut dire quoi, encore une fois, construire sa maison sur le rocher? Parce que même si on l'intègre, même si on dit, je suis d'accord, je vais construire ma maison sur le rocher, déjà, ça veut dire que quand je dis « je construis ma maison », ça veut dire que je fais quelque chose. Ce n'est pas que je m'assois puis j'attends que ça se passe, que ma maison se construit toute seule. Non, celui qui construit sa maison sur le roc, eh bien, il fait quelque chose, il construit sa maison. Et ce texte me dit quand même quelque chose qui me semble tellement important. Jésus va nous dire… Là, je vous disais, on peut se poser la question, c'est quoi être sur le rocher? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et Jésus le dit, en fait, au verset 24. Parce qu'il dit, voilà, c'est pourquoi celui qui entend ce que je viens de vous dire et qui agit en conséquence, alors c'est comme, ressemble à cet homme sensé qui a bâti sa maison sur le soubassement rocheux. Jésus nous dit quelque chose d'essentiel ici, il me semble, c'est que construire sa maison sur le roc, donc sur Jésus, eh bien, c'est entendre ce qu'il dit. Et là, dans ce texte, il dit, c'est entendre ce que je viens de vous dire, dans la version parole de vie, ou parole vivante. Et non seulement j'entends ce que Jésus me dit, mais en plus, et ensuite, je le mets en pratique. Parce que si j'entends et que je ne le mets pas en pratique, Eh bien, ça ne me sert pas à grand-chose, je ne suis pas sur le rocher. Mais Jésus dit ici quelque chose qui me semble fondamental. Ça tombe bien en parlant de fondation et en parlant de construire sur le rocher. Eh bien, ça veut dire que je construis ma vie sur ce que Jésus m'a dit, me dit, sur sa parole. Ben, quelque part, ça semble légitime en un certain sens, parce que la Bible nous dit que Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair. Mais quand même, et là, je ne sais pas depuis combien de temps je suis en train de vous parler, je vais essayer de ne pas être très long, mais simplement, je voudrais vraiment vous dire, frères et sœurs, cet après-midi, qu'il faut vraiment qu'on saisisse quelque chose quand même. Ce n'est pas le tout de savoir, mais c'est le tout de mettre en pratique. Il faut entendre et il faut savoir. Et dans ce texte, Jésus nous dit, enfin, en tout cas dans la version parole vivante, il nous dit, c'est pourquoi celui qui entend ce que je viens de vous dire. Maintenant, j'aimerais, frères et sœurs, je vais vous donner un certain nombre d'éléments que j'ai relevés, mais je ne vais pas vous tous les donner parce que ça prendrait trop de temps cet après-midi. Mais j'aimerais, je vous enverrai tous les textes que je viens de vous partager, là, je vous les enverrai par mail. Mais je vous encourage à relire le chapitre 5 de Matthieu, parce que c'est 5, 6, c'est tout ce que Jésus a enseigné. Et il finit cet enseignement en disant, justement en donnant le fait qu'on doit construire notre maison sur ce soubassement rocheux. Et il nous dit que ce soubassement rocheux, eh bien, c'est tout ce qu'il vient de nous enseigner précédemment. Donc, ça doit avoir de l'importance pour nous. Mais j'irais d'ailleurs, il me semble que je ne me trompe pas en disant que ce n'est même pas seulement ce que Jésus a enseigné précédemment, c'est ce que Jésus enseigne dans toute la parole. Mais en tout cas, eh bien, il faut qu'on prenne en compte ce que Jésus a enseigné précisément quand même ce jour-là à ses disciples et à ceux qui étaient là. Alors, je vais juste vous rapidement vous donner quelques éléments. Matthieu 5, 22 par exemple, il va dire « Celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice ». Et celui qui dit « espèce d'imbécile » mérite de passer devant la Cour suprême, celui qui le traite d'insensé est bon pour aller en enfer. Peut-être on peut dire « mais tu t'intéresses à ça, Seigneur ?» Et ça a à voir à quoi d'être fondé sur le roc ? Allez voir Jésus, hein, moi. C'est lui qui le dit. Notre comportement, la façon dont on gère nos relations avec les autres, c'est important pour le Seigneur. La façon dont on parle, c'est important pour Dieu. Alors, on pourrait prêcher pendant un moment sur ce sujet. Alors, je continue quand même, parce que je vous ai dit que je vais essayer d'aller assez vite. Hein. Et au verset 23-24, il va dire... toujours pareil dans ce sens de relation les uns avec les autres, c'est-à-dire si tu te souviens qu'un frère a quelque chose contre toi, alors laisse là ton offrande au pied d'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Je suis sûr qu'on le connaît tous, hein, bien sûr, ce texte, hein, on l'a lu certainement de nombreuses fois. Alors si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, d'ailleurs pourquoi il aurait quelque chose contre toi, mais certainement que tu lui as fait du mal ou je ne sais pas ce que tu as fait, mais c'est pas le frère qui est en cause dans l'histoire, hein, c'est toi. On doit régler quand on fait quelque chose qui n'est pas juste. Eh bien, quand je règle les choses avec mon frère, ma sœur, eh bien, Dieu se sent concerné. En tout cas, c'est ce que je comprends de ce texte. Hein. Parce que si je le fais pas, d'ailleurs, Jésus va loin, enfin, il me semble. Il dit, mais si je dis à mon frère, bah, t'es un imbécile, et je mérite d'être si celui qui traite son frère d'insensé, bon, c'est un peu la même chose d'ailleurs, eh bien, il est bon d'aller en enfer. Waouh! Nos relations, frères et sœurs. Quand je suis fondé sur le roc, quand Jésus dit que je suis plutôt, je vais le dire autrement, Jésus dit que je suis fondé sur le roc, quand je soigne mon relationnel avec l'autre. Hein? Quand j'écoute ses paroles. Au verset, au chapitre 5, toujours verset 37, il veut dire autre chose. Il veut dire, dites simplement oui si c'est oui et non si c'est non. On est appelé à être juste, vrai, pas tourner autour, enfin, pas avoir un langage biaisé, enfin, des intentions biaisées. C'est tellement présent dans notre société aujourd'hui, frères et sœurs. C'est tellement présent. Et si c'est présent, c'est parce que c'est tellement facile. Et je vous donnerai un texte tout à l'heure qui nous montre, enfin, Dieu le, enfin, en tout cas, Jésus le dit. Après, toujours au chapitre 5, verset 44, il va nous dire, je vous rappelle, pour pas qu'on oublie, mais enfin, je ne pense pas que vous l'oubliez pas, mais on est en train de parler de ce que Jésus a enseigné et à la fin où il dit qu'on est sur le roc. Hein. Et il va dire ceci, moi je vous dis, témoignez de l'amour à vos ennemis et priez pour ceux qui vous poursuivent de leur haine. Alors mon frère, ma sœur, si c'est ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, bien sache que tu es fondé sur le roc, mais que si tu ne le fais pas, eh bien, tu as besoin de faire comme David, de crier à l'Éternel en disant « Seigneur, prends-moi par la main et conduis-moi sur le chemin. Emmène-moi dans cette dimension où j'arrive à aimer mon ennemi, à prier pour lui, même s'il est rempli de haine envers moi. » Ça va, ça? Enfin, les sœurs, c'est ça, être sur le rocher. En tout cas, quand je pratique ça, parce que Dieu a touché mon cœur, parce que Dieu a... Enfin, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, j'oserais vous dire, enfin, je ne pense pas me tromper non plus en disant ça, même si, je répète, hein, je disais tout à l'heure que quand je construis, c'est moi qui fais. Non, je ne fais pas tout seul, je fais avec l'aide de Dieu. Je le fais parce que Dieu intervient dans ma vie, parce que Dieu agit dans ma vie, parce que Dieu fait, construit, parce que Dieu, comme disait David tout à l'heure, enfin, il est celui qui nous conduit sur le rocher. Enfin, on n'est pas tout seul dans cette dimension-là. Au verset 48, Jésus va dire, oh, alors là, vous êtes bien assis, mes frères et mes sœurs. Soyez parfaits, tout comme votre Père Céleste est parfait. Bon, je ne vais pas. Je pourrais prêcher rien que sur ce verset-là. Hein. Non, simplement, je veux juste attirer votre attention, quoi. Parce que, alors, frères et sœurs, c'est vrai que par nous-mêmes, on ne sera jamais parfait. Alors, en tout cas, il ne faut pas se dire, ah ben, tant pis, je ne serai jamais parfait, donc, Seigneur, enfin. Non. Ce que Jésus, en tout cas, est en train de nous dire ici, c'est que. On doit viser le chemin de la perfection. On ne doit pas s'arrêter à nos imperfections. De toute façon, le Seigneur le sait bien. Hein. Mais si je m'arrête à mes imperfections, je suis en train de redescendre du rocher. Et si je vise la sainteté de Dieu dans ma vie, alors je suis celui qui est en train de construire les fondations, ma vie sur les fondations qui sont justes aux yeux de Dieu. Alors, il y a plein de versets, je vais essayer de vous en donner. Alors oui, Matthieu 6, verset 19, hein. N'amassez pas les richesses dans ce monde, ça vous sert à rien. Hein. Ça paraît utile, enfin c'est oui, ok, il faut qu'on aille travailler, c'est normal ça. Hein, mais si le but de ma vie, c'est d'amasser de l'argent, ben, tu fais peut-être bien pour ta vie dans ce monde. Hein. Mais tu n'es pas en train de construire ta maison sur le rocher qu'est Jésus en tout cas. Et d'ailleurs, si c'est ça, le jour où, vous voyez, par exemple, dans cette situation qu'on vit aujourd'hui, l'économie, qui d'entre nous, il y a deux ou trois mois en arrière, pouvait dire, aurait pu penser ce qui est en train d'arriver, même économiquement parlant, alors là, je ne parle même pas de la maladie, hein. Qu'est-ce qui va se passer demain? Bon, on n'en sait rien. Alors, si notre fondation, elle est placée dans les richesses de ce monde, frères et sœurs, on est mal parti. En tout cas, on n'est pas sur le rocher parce que comme l'a dit Jésus, eh bien, si ta fondation elle est là, la tempête arrive, tout est balayé, puis tu n'as plus rien. Quand tu es sur le rocher, la tempête est là aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand je suis sur le rocher, ce n'est pas qu'il n'y a pas la tempête, elle est là. Mais je ne m'écroule pas. Mais je ne perds pas. Je ne suis pas le perdant. Et puis donc, Jésus dit, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Ça, ça devrait être notre priorité. En tout cas, si je suis en train de construire ma vie sur le rocher, eh bien, c'est ma priorité. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, Jésus va continuer et puis il va dire au verset 31 de Matthieu 6, bannissez donc toute inquiétude. Ça fait du bien d'être sur le rocher. Bannissez toute inquiétude. Alors là, dans ce texte, Jésus va parler du manger, du boire, de l'habillement. Enfin, on est tous concernés par ça. Hein. Ça fait partie de notre vie de tous les jours. Ne bannissez toute inquiétude et préoccupez-vous au verset 33 en premier du règne de Dieu. C'est ça, être sur le rocher. Au chapitre 7, il va nous dire qu'on ne doit pas se poser en juge d'autrui parce que Dieu nous jugera de la même manière. Ça, c'est dans notre nature. Hein. Et puis, il va dans la foulée dire que tout ce que vous seriez heureux que les autres fassent pour vous, alors faites-le pour eux. Bon, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je vous en prie, frères et sœurs, relisez tous ces trois chapitres-là. C'est fondamental. On ne peut pas passer à côté. Alors, au chapitre 7, et puis je vais bientôt conclure, Jésus va dire ceci, au verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieuse et facile est la route qui mène là où l'homme sera irrémédiablement perdu. Nombreux, hélas, sont ceux qui s'y engagent, mais quelle est étroite la porte qui donne accès à la vie. Qu'il est difficile le sentier qui y mène, et qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. C'est ça. Jésus est en train de dire ici que si mon regard est porté sur ce qui est qui me semble facile pour moi, sur ce qui réjouit mes émotions, mon sentiment, soit parce que j'ai de l'argent, soit parce que j'arrive à avoir un petit peu tout ce que je veux, enfin, ou que sais-je, c'est facile. Tout à l'heure, tout au début, je vous partageais le fait que pour les on peut se poser la question, pourquoi pour les méchants, tout semble aller bien. Et puis moi, l'enfant de Dieu, je crie à Dieu, je prie, et puis c'est la tempête, quoi. Mais je m'en sors pas. Enfin, en tout cas, il me semble que je m'en sors pas. Oui. Jésus a dit, la porte est étroite. Le sentier est difficile. C'est vrai, c'est tellement plus large, c'est tellement spacieux le chemin qui mène à la perte. Alors, si c'est vrai, frères et sœurs, c'est vrai, en tout cas, c'est vrai pour moi, enfin, je suppose que c'est vrai pour vous aussi d'ailleurs, je ne sais pas. C'est que c'est pas facile de faire mourir cette nature en nous qui n'est pas forcément portée vers le Seigneur et que c'est pas le choix le plus évident que de passer par la porte étroite et d'entrer dans ce chemin, ce sentier, comme dit Jésus lui-même, ce sentier qui mène à la vie. C'est vrai que peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Et pourtant, c'est le chemin qui nous mène au rocher, à cette stabilité dans notre vie, au fait que même quand la tempête arrive à un moment donné, on la subit, eh bien on reste debout. Alors, voilà ce que j'aimerais vous dire en conclusion. En tout cas, voilà, je l'ai expérimenté par ma vie. Et vous aussi, je pense, parce que bon, je connais certaines vies de certains d'entre vous. En tout cas, Deutéronome 32, verset 4, le Seigneur est un rocher protecteur. Il agit de manière parfaite. Vous savez, quand on est dans la tempête, des fois on a l'impression que ce n'est pas vrai. Et pourtant, c'est vrai. Alors, on ne le voit pas toujours tout de suite. Mais le Seigneur est un rocher protecteur. Écoutez bien quand même ce texte, s'il vous plaît. Il agit de manière parfaite. Toutes ses décisions sont légitimes, toujours fidèles, jamais injustes. Il est plein de droiture et de vérité. Moi, j'ai déjà entendu, et même, enfin, je n'ai pas d'exemple là tout de suite qui me viennent à l'esprit, mais je suis sûr que dans ma vie, je me suis déjà dit, mais Seigneur, tu es injuste, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal que tu laisses faire telle et telle chose. Alors, on peut se poser la question, pourquoi le coronavirus? Pourquoi tant de morts, même par les enfants de Dieu? Pourquoi aujourd'hui, je pense qu'on est tous au courant de ce qui se passe pour la porte ouverte chrétienne de Mulhouse, à quel point ils sont stigmatisés, attaqués. On est en train de dire aujourd'hui, on l'a encore entendu aux informations tout à l'heure, que l'épidémie du coronavirus, eh bien, c'est à cause de la porte ouverte chrétienne de Mulhouse. C'est à cause d'elle que tout s'est répandu en France. C'est les journalistes qui disent ça. On sait que ce n'est pas vrai, bien sûr. Oui, ils ont été un vecteur de communication du virus. Alors pourquoi, Seigneur? Mais c'est fou, Seigneur, mais ce n'est pas juste. C'est tes enfants, Seigneur. Pourquoi? Le Seigneur est un rocher protecteur. Il agit de manière parfaite. Toutes ses décisions sont légitimes. Il est toujours fidèle, jamais injuste. Et les plats de droiture et des vérités. Enfin, c'est ça, il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre, mais Dieu sait pourquoi ça se passe comme ça. Et il y a une chose qui est certaine, en tout cas, moi, c'est ma conviction profonde. Je crois qu'à un moment donné, même si forcément on ne le voit pas là tout de suite, Dieu fera éclater sa gloire dans cette situation-là pour la porte ouverte. En tout cas, on a besoin de prier pour eux. Et même prier pour toutes les églises qui sont stigmatisées, parce que je vais vous dire quelque chose, je suis quasiment sûr que beaucoup d'églises évangéliques seront stigmatisées à cause de ça, et peut-être la nôtre aussi. Alors nous devons prier. Nous devons prier, et nous vous devons être des volontaires pour rentrer par la porte étroite et marcher sur ce chemin étroit qui est quelquefois difficile à cause de notre nature, mais sur ce chemin, on n'est pas seul quand même. Parce que comme disait le psalmiste tout à l'heure, David, eh bien, il est celui qui nous prend par la main. C'est vrai. Dans le psaume 119, au verset 105, c'est une parole que j'aime énormément. Il va dire ceci, « Ta parole est une lampe devant mes pas et une lumière qui éclaire ma route. » Quand je ne comprends pas, quand je ne sais pas pourquoi, quand je m'interroge, quand je ne comprends plus rien, eh bien, ta parole est une lumière qui éclaire ma route. Je pense que c'est normal quelquefois s'interroger, je ne crois pas que Dieu soit contre nous quand on s'interroge. C'est normal de ne pas comprendre, je crois que Dieu le sait, mais alors Dieu nous dit… Prends cette lampe devant ton chemin. Tu ne comprends pas, peut-être, mais prends cette lampe. Prends cette parole, appuie-toi sur cette parole Appuie-toi sur ma parole. Prends en compte mes enseignements. Je dirais presque, attendez, je vais le dire comme ça. Finalement, tu t'occupes pas du reste, quoi. Ce qui est important, c'est d'avancer sur ce chemin avec cette parole qui éclaire ma route. Alors voilà. J'oserais dire cet après-midi, abandonne, dépose ta fausse sécurité dans ce que tu as. Non, je le dis pour moi-même, hein, puis pour nous tous. Dépose ta fausse sécurité dans ta sagesse ou ton savoir, dans ta richesse peut-être. Je ne sais pas si, je crois pas qu'on a beaucoup de riches au milieu de nous. Il y a peut-être des richesses cachées, je ne sais pas. En tout cas, notre richesse, elle est en Christ. Ma richesse est en Christ. Mon frère, ma sœur, choisis plutôt le chemin qui mène à la vie. Alors, ouais, la porte étroite, le chemin difficile, mais il nous place dans quelque chose de solide et d'inébranlable. Je dis ça parce que je ne suis pas en train de vous mentir. Des tempêtes dans ma vie, j'en ai eu. J'en aurai encore certainement. Je ne les aime pas. Hein. Vous savez quoi, frères et sœurs? Satan aime quand nous nous enfermons nous-mêmes dans nos questionnements. Ces questionnements qui, souvent, nous empêchent de croire tout simplement et d'obéir aux paroles de Jésus. Jésus a dit un jour, « Si vous ne devenez comme des petits-enfants, croire un petit enfant, je me souviens de mes enfants quand ils étaient petits, je vois mes petits-enfants aujourd'hui, mais quand leur papa ou leur maman dit quelque chose, eh bien, ça compte, quoi. Peut-être certainement qu'inconsciemment, ils savent qu'eux ne savent pas tout et que leurs parents savent tellement plus qu'eux. Ça change après quand ils grandissent. Hein. Mais au début, Jésus dit, devenez comme des petits-enfants. Frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à devenir comme un petit-enfant au pied de notre papa qui est notre Dieu? Dieu est notre papa. Il sait tellement mieux que nous. Alors, frères et sœurs, je vous parlais d'être sur le rocher, d'être sur le roc. Être sur le roc, je vous rappelle ce que dit Jésus, c'est d'entendre ce qu'il nous dit, ce que nous dit la parole, et d'agir en conséquence. Je pense que c'est ce qu'on devrait tous faire, quelles que soient les circonstances et les situations. Alors, voilà, je vais arrêter là parce que je ne veux pas être plus long que ça. Je pense que j'ai déjà parlé trop longtemps. Mais voilà, je vous enverrai parce que j'ai encore plein d'autres textes que j'avais piochés. Et puis, certainement, vous pouvez aussi faire vos recherches. Mais voilà, le Seigneur est un Dieu